Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Petit conseil du haut de mes 50 ans, l'autorité parentale, la paternité, la maternité, c'est 100% du temps. Que vous soyez à 3 mètres ou à 30 000 km de l'endroit où ça se passe, c'est pas quelque chose que voilà. J'ai cru un moment, je veux dire, bah oui, quand je suis à Paris, j'ai ma vie à Paris, je suis plus père. Et quand je suis avec mes enfants, je suis père. C'est d'une bêtise sans nom que de penser ça.
Exécuté par qui ?
Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous. Et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron, le podcast où chaque lundi, à partir de 6h du matin, je donne la parole à un père pour lui faire causer de son expérience de la paternité. Je suis Fabrice Florent, je produis des super podcasts d'interviews et de discussions. En tout cas, moi, je les trouve super. Et je crée des contenus. Je fais parler des pères de paternité, des mères de maternité, des gens de leur rapport au succès. Je prends des mecs entre quatre yeux pour leur parler de masculinité. Je fais causer des gens de leur rapport à l'argent et de plein d'autres thèmes que je vous invite à découvrir en allant sur mon site fabflorent.com. FABFLORENT.com. Si vous aimez cet épisode, vous pouvez aller écouter la bande-annonce du podcast pour en découvrir plus sur mon travail et mes autres podcasts. Si vous aimez mon travail, vous pouvez m'offrir un cadeau en échange en me soutenant financièrement et ainsi me donner un peu plus de sérénité en vous abonnant par exemple à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent sonnant et trébuchant. Allez dans les notes du podcast ou en allant sur fabflorent.com, FABFLORENT.com, donc vous y trouverez toutes les infos. Enfin, si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre application de podcast préférée et surtout, partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Alors Discord, c'est un petit logiciel génial que je vous invite à découvrir, qu'il faut installer sur votre téléphone ou votre ordi. Vous pouvez également me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux. Vous pouvez vous abonner à ma newsletter et vous trouverez toutes ces infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Un grand merci d'avance et bonne écoute à vous.
Laurent, bienvenue à mon micro.
Mais merci de m'accueillir.
Welcome back.
Yes.
Enfin, welcome back. C'est pas comme si tu étais déjà venu, mais en tout cas, ça me fait plaisir de te revoir. On s'est rencontrés parce que j'en ai parlé. J'ai parlé du fameux truc du cercueil. J'ai parlé du fameux exercice qu'on a vécu ensemble.
Oui.
Et je vais vous inviter à aller écouter si ça vous intéresse, parce qu'on a fait, toi et moi, ensemble un stage.
C'est
autour
ça.
Du thème de la mort, et on s'est rencontrés là.
Voilà, et dans la joie et la bonne humeur.
Ouais, beaucoup plus que ce que les gens croient.
Ça, c'est sûr.
Et en fait, si le sujet vous intéresse ou vous fait peur, je vous invite vraiment, je vous mettrai un lien dans les notes de cet épisode pour aller écouter. Je vous raconte un rituel qu'on a fait incroyable. C'est le seul truc dont on a le droit de parler parce qu'on n'a pas le droit de parler de ce qui s'y passe sauf ça. Donc, je trouvais ça cool d'en parler dans mon podcast.
C'était un grand moment, je confirme. Allez écouter le compte-rendu de Fabrice, c'était assez dingo.
C'est incroyable. Et on a beaucoup parlé de paternité.
Oui.
Pendant ces quelques jours passés ensemble. Et je t'ai proposé de venir dans Histoire de Daron. Déjà parce que j'aime bien avoir des vieux. Alors désolé, hein, mais des vieux darons, quoi.
Ah,
hein.
Ouais, je sais. Il faut que je m'y fasse. J'étais encore le doyen, là, dans
t'es
notre groupe.
T'es le plus
groupe.
Vieux.
Mais ouais, encore.
Ouais. Oh, t'as 50 ans.
Je viens de fêter mes 50 ans.
Ça va.
Ça va. Ça va.
Ça va.
Ça va très bien.
Et ouais, c'est cool aussi d'avoir des parents un peu plus, des pères un peu plus âgés d'une manière générale. J'aime bien parce que ça amène une autre vision peut-être aux jeunes parents. Je trouve ça cool.
Ben écoute,
et je crois que moi, ça m'a manqué quand j'étais jeune parent d'avoir la vision des vieux, quoi. Des
ouais,
darons.
Des darons.
Des darons, des darons.
Des darons âgés.
Exactement. Alors, t'as 3 enfants.
3.
C'est ça ?
C'est ça.
Tu peux préciser ?
Alors, les 3, Alix, Zoé et Arthur. Donc, les deux filles, Alix a 22 ans plus, alors à 23 ans en février. Zoé, 21 ans et demi. et Arthur, 15 ans depuis cet été.
Ok.
Donc deux grandes étudiantes, parties
loin.
Loin et pas si loin, et Arthur qui vient de rentrer au lycée.
Ok, et en fait, l'une de tes caractéristiques aussi, c'est qu'effectivement, tes grandes filles sont parties, enfin en tout cas, elles sont étudiantes, mais ton fiston, lui, vit en Bretagne, alors que toi, tu vis à Paris, c'est
exactement.
Ça?
Exactement. En fait, alors je reviendrai sur l'adolescence, l'enfance, oui. Les enfants, tout ça, etc., etc., mais on s'est séparés en 2017 avec donc Sandrine, qui est... ma première épouse est la mère de mes enfants. Et donc de 2017 à 2022, moi je travaillais à Paris et une semaine sur deux j'étais en Bretagne pour être avec les enfants et surtout avec Arthur qui était, les filles étaient restées un peu plus chez leur maman, un peu plus tranquille, et Arthur venait passer plus de temps avec moi. Et l'été dernier, les deux filles étaient parties de Bretagne pour être étudiante, et Arthur a démarré une année en pensionnat en Normandie. Et donc j'ai dit c'est l'occasion d'être full time à Paris. Accessoirement, je me rapprochais d'Arthur qui était en Normandie, et du coup là Arthur a terminé son année de sport études et retourné en lycée en Bretagne. Il est toujours en internat.
Tu fais quoi comme sport études?
Il était, alors c'était de la voltige équestre. On a une famille de poneys.
Vous êtes des poneys, c'est ça?
De cavaliers. Alors moi un peu moins que les autres, mais non, c'est leur maman qui a transmis ça aux filles, ensuite à Arthur, et moi sous la pression familiale j'ai fini par m'y mettre. Alors que j'étais pas du tout ces grands machins là, ça me faisait peur, je suis allergique,
t'es allergique.
Et j'ai fait de l'équitation pendant 10 ans, quoi. De 33 à 43, j'étais
Ah ouais.
Je montais toutes les semaines, j'ai fait des concours du saut d'obstacle avec les filles, j'ai fait ça avec passion et engagement.
Qu'est-ce qu'on ferait pas par amour, hein?
Écoute, ouais, c'était je me suis fait surprendre, en fait, parce que je leur ai dit, au bout d'un moment, je leur ai dit, écoutez, vous savez ce que je vais faire? Je vais aller mettre mes fesses sur votre truc, là. Je vais redescendre, je vais vous expliquer pourquoi j'ai pas aimé, comme ça, on n'en parlera plus. Et j'ai adoré ça. et donc, j'en ai fait pendant 10 ans, et parfois jusqu'à, 2-3 fois par semaine, ouais. Donc,
ah ouais. En étant allergique et tout, alors. Incroyable.
Ouais, alors ça, après, tu t'habitues, oui. Puis des jours, tu t'habitues pas, et t'en as plein de... T'as les yeux tout rouges, t'as la myxomatose et le nez qui coule et les yeux qui pleurent, mais... Mais t'es content parce que t'es à cheval, voilà.
Trop bien.
Les cavaliers me comprendront.
J'imagine. Moi, ouais. Je t'avoue que je suis jamais tombé dans le panneau, même si ma fille a eu une période où elle était à fond, et moi, j'avais peur, tu vois, et elle a fini par tomber 2 fois, 3 fois. Ils lui ont mis le pire canasson du groupe, quoi, tu vois, qui faisait tomber les enfants, et en fait, la troisième chute, elle a eu très peur, elle est jamais remontée.
Ouais, tu peux te faire très très peur.
Ouais. Ouais. Oui.
Et en tant que parent, quand tu regardes tes enfants monter, tu te fais aussi très très
bien. Mais j'imagine.
Ouais.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Surtout s'ils font de la voltige et tout, là, si ça commence à faire... je sais même pas ce que ça veut dire, voltige équestre, c'est quoi?
Voltige équestre, pour faire simple, tu fais des acrobaties sur un cheval qui est au pas, au trot, au galop.
Waouh!
Ouais, et c'est vraiment de la gymnastique, ouais. Il faut être extrêmement gainé, musclé, souple, etc.
J'allais dire, c'est du cirque limite, quoi.
Ouais, un peu, tu vois ça effectivement dans les cirques, il y en a... Alors, ça peut aussi, tu peux te diriger vers la cascade équestre, si tu fais des choses comme ça, donc c'est très c'est un beau sport, alors qui est pas hyper connu.
Ouais, ouais.
Mais
c'est la passion de ton fils bien. En tout cas.
Ouais, ouais, il a fait ça. Et puis, mais là, il fait une petite pause équitation. Il est un peu moins. Il n'avait pas envie de retourner dans les clubs. Les,
ok. C'est voilà, un peu l'âge.
Les reprises, les trucs, etc. etc. Ça le, il fait, comme il dit non, mais je préfère faire une petite pause. Voilà. Bon, il fait d'autres choses.
Ouais.
Parce qu'il n'y a pas question qu'il fasse rien. Mais,
ok.
Mais pas de cheval.
Ton désir de paternité, Laurent.
Mon désir de paternité.
D'où vient-il ? Ton D'où désir vient-il de devenir père.
Il est. Je me suis jamais vraiment posé la question, en fait. C'était une évidence. Moi, je suis. J'ai grandi dans une famille de quatre enfants, très famille française catholique, très traditionnelle, la messe, les trucs, la famille,
ah ouais.
Blablabla, etc.
Total.
Ouais, la bonne totale. Et en fait, j'ai toujours eu en moi cette idée que j'étais là pour faire des enfants, pour ouais. trouver une épouse, me marier, faire des enfants, les élever, etc., etc. Donc ça a jamais été une vraie question de se dire mais qu'est-ce que ça représente pour moi, qu'est-ce que ça veut dire, comment est-ce que j'ai fait le truc de manière un peu
automatique.
Et je me souviens, tu vois, quand j'ai rencontré Sandrine, donc ma première épouse, je me souviens de dire non mais moi des enfants j'en veux cinq. Et le cinquième, ce sera un enfant adopté. Je voudrais adopter ce que j'ai vécu en Afrique quand j'étais enfant, etc., etc. Et j'avais cette idée-là, qui était assez forte. Et je me souviens de Sandrine qui a toujours un peu plus de recul que moi, qui me disait ouais, écoute, on verra. Elle m'a jamais dit non, formellement non, mais je pense qu'elle savait au fond d'elle que au bout de deux, trois, on se rendrait compte de ce que ça veut dire et j'aurais peut-être une vue un peu différente du sujet, quoi.
Ça devenait d'où cette idée de plan là comme ça?
Je sais pas, c'était parce que nous déjà on était une fratrie de quatre.
Ok.
Je suis l'aîné, j'ai un frère qui a 2 ans de moins que moi, une sœur qui a 4 ans de moins que moi et un autre frère qui a 7 ans de moins que moi. Et donc j'aimais bien cette idée de fratrie assez importante, famille nombreuse, la projection des beaux repas ouais. à table, des week-ends, des machins, etc., etc. Ça, c'est un truc que j'avais. Et puis je rajoutais cette envie d'adoption
okay.
qui était présente, ouais, je te dis, quand j'avais entre 18 et 23, 24, 25 ans. C'était plutôt un truc que je voulais, mais encore une fois sans qu'il y ait une profonde réflexion derrière tout ça. C'était vraiment de l'envie du désir, c'était très émotionnel et tu dis ah, ok, ça se passera comme ça. Et puis après tu te confrontes à la réalité de la paternité et là tu t'atterris un peu et je ne suis pas un surhomme, donc je suis quand même allé, enfin nous sommes allés jusqu'à 3 et c'est très bien comme ça.
Ok, tu t'épanouissais toi dans cette famille nombreuse et dans cette grande fratrie pour le coup, parce que je sais qu'il y a plein de gens pour qui c'était plutôt compliqué justement et qui se disait non, on va revenir à un format plus petit quoi.
Ah non, moi ça a jamais été compliqué. On parle beaucoup avec mes frères et sœurs depuis quelques années, parce que on pourra aussi reparler de l'exemple des du modèle des parents, etc. Il y a des choses à raconter. Et Non, moi j'étais dans, enfin voilà, il y avait, on s'entendait bien, frères et sœurs, chien et chat, tu vois, ça se chamaillait, ça s'adorait, ça jouait, ça se disputait, ça se faisait la gueule, ça s'aidait, ni plus ni moins que d'autres, si tu veux. Je connais des gens qui s'entendent pas du tout avec leurs frères et sœurs, ça n'a jamais été mon cas. Je connais des gens qui sans forcément être jumeaux, mais ont des relations extrêmement fusionnelles avec leurs frères et sœurs, c'est pas mon cas non plus. On est, enfin voilà, une famille classique. Okay. Mais ouais, j'aimais bien ce truc un peu dans la, on est beaucoup, on est nombreux, quoi.
Ok. Tu te souviens du jour où Sandrine vient. Petite voix de merde. Tu te souviens du jour où Sandrine vient t'annoncer qu'elle est enceinte ?
Ouais. Je me souviens. Et alors, curieusement, je me souviens mieux du deuxième que du premier.
Okay.
Donc, je vois très bien où on était, l'appartement. Là. Alors, je sais plus exactement. Très honnêtement, pour Alix, l'aînée, je peux pas te donner les mots exacts, etc., etc. Mais je me souviens d'une joie et d'une chaleur immense, enfin, d'un truc et partagé, quelque chose de commun. C'était pas un truc juste pour moi. C'était vraiment, enfin, ouais, voilà, on y est là. On va, toi et moi, on va faire un truc qui est quand même un peu dingo. Et alors pourquoi je dis que je me rappelle plus du deuxième, parce que le deuxième, je rentre un soir et Sandrine me dit, ouais, je suis allé faire un peu de shopping pour Alix. C'est ce que je te montre, ce que je lui ai acheté. Et elle me sort des bodys et tout, et je regarde les trucs et je me dis, putain, mais ça a l'air un peu petit quand même.
C'est un piège.
Ouais, je savais pas trop. Et puis, je connais bien. Elle avait son petit soin. Elle me dit, mais y a rien qui te choque. Puis moi, je dis, bah non, je sais pas. Elle dit, mais ça va être un peu petit pour Alix quand même. Et là, je vois son œil. Et là, je comprends que donc elle est enceinte du deuxième. Et pareil, la même joie, plus plus la mise en scène un peu qui était assez sympa.
Parce que Zoé est arrivée un an et demi après Alix.
16 mois d'écart. Ouais.
Ah ouais, donc c'est...
il y a 16 mois entre les deux. En fait, on avait Alix avait pris normalement, mais je pense que ça avait entre le moment où on l'a décidé, Sandrine a dû tomber enceinte 6-7 mois après, okay. Ce qui est tout à fait logique. Et donc on s'était dit, on va...
Alors, attends, j'en profite pour dire, c'est pas forcément logique, parce qu'il y a des jeunes parents qui se disent, ok, on prend la décision maintenant, et en gros dans 6 mois ça va se déclencher, mais parfois ça peut arriver du jour au lendemain.
Parfois ça peut arriver du jour au lendemain, et je disais c'est logique aussi parce que parfois, dans certains couples, ça peut mettre beaucoup plus de temps que ça, et voilà. Mais oui, il n'y a pas de...
J'essaie de faire attention à ça, parce que je sais qu'il y a...
Ouais, tu fais bien de préciser, il n'y a pas de normalité.
Voilà, c'est ça.
On se dit, si ça n'a pas marché au bout d'un mois, les gars, vous inquiétez pas, tout va bien, ça va venir.
Et puis ça peut arriver vraiment...
Et ça peut aussi...
Le mois suivant, quoi. Préparez-vous.
Et du coup, j'ai perdu le fil.
Donc, oui,
sur...
Tu disais que...
Oui, et donc, Alix était... l'aîné était un bébé super calme, super cool et tout. Et donc, on s'est dit, c'est cool, on peut...
Enchaîner.
On est bon, quoi. On a un manuel, on peut y aller. Et tu vois, on s'était dit, on y va maintenant. Le temps que ça se fasse, il y aura 2 ans d'écart entre les deux. Et puis paf, là pour le coup, c'était
paf
du jour au lendemain, ou quasi. Et donc, les deux ont 16 mois d'écart. Et on va pas se mentir, ça a été un peu sportif.
J'imagine, ouais.
Ça a été un peu sportif.
Parce que là, vous avez, tu vois, mes filles ont 2 ans d'écart. Et 2 ans d'écart, je trouve que c'est pas mal parce que la petite est suffisamment grande pour commencer. Surtout qu'elle était un peu en mode, ok, je vais être la grande sœur, alors je vais être autonome et tout. Là, à 16 mois d'écart, la grande est encore petite, quoi.
La grande est encore petite. Alors elle marche, ce qui est déjà en termes d'autonomie. Tu vois, tu peux en tenir une par la main et porter l'autre ou porter le maxi cosy ou je ne sais quoi.
Et comme elle marche, c'est aussi dangereux parce que.
Ça part, bref. Et mais je me souviens de. En plus, on était dans un appartement. On était à Lille à l'époque. On était dans un appartement de deuxième étage, sans ascenseur. Enfin, ce qui se fait bien. Mais quand t'as tes affaires de boulot, le maxi cosy, Alix qui a 16 mois, qui fait marche après marche, qui prend son temps parce que c'est joli et qu'elle a pas envie d'être très pressée et que. Enfin, ça donne des scènes de patience assez cocasse, mais ça a été assez intense et en tout cas entre les filles ça a créé quelque chose d'assez fort, parce que finalement elles étaient toujours l'une après l'autre partout, enfin que ce soit à maternelle, à l'école, au collège, au lycée, etc. C'est sportif, ouais. C'est sportif. Le Arthur, on a attendu un petit peu plus longtemps.
Bah oui.
On a attendu, oui.
Ils ont 6 ans.
Ouais, 6 ans avec Zoé, ouais. 2001, 2002, 2008. Donc Arthur, on a attendu un peu, ouais.
Ok. Comment se sont passés les accouchements? T'as des souvenirs particuliers? Parce que là, t'en as 3.
Ouais, j'ai des souvenirs. Alors moi, j'avais déjà, et je le dis parce que je ça peut faire du bien de l'entendre aussi. Moi, j'avais été extrêmement clair sur le... Il y a un côté que je n'irai pas regarder, tu vois. Enfin, tu vois comment se passe l'accouchement.
Tout à fait.
Moi, je suis du côté de la tête de la maman. Je suis avec elle, je la regarde, je lui parle. Ce qui se passe, pour moi, ça doit rester du domaine de l'imagination. imaginaire, tu vois. Je veux pas.
Moi, je suis dans ta team. Hein.
Voilà. Je veux, encore une fois, chacun.
Je suis fasciné des gars qui vont voir pour
C'est pas possible. Moi, je.
Ne serait-ce que pour l'expérience, quoi, tu vois.
Ouais. Moi, enfin, voilà. après, il y avait la question du cordon. Moi, pareil, le cordon, j'ai pas. J'ai le Arthur, je crois, j'ai le troisième, j'ai coupé, mais le. voilà, c'était pas dans mes. Dans mes
trucs. Pas mon job.
Ouais, je sais pas si c'est une question de job
Non,
moi c'est non. Et alors le premier accouchement, Sandrine un soir me dit bon ben là je crois que c'est bon, il faut y aller, on y va, on arrive à l'hôpital Jeanne de Flandre à Lille,
bien connu.
Et là il y a personne. Aux urgences maternité, et ils osculent Sandrine, ils disent oui bon madame, le col est un peu ouvert, mais bon écoutez, il y a personne, on va vous garder quoi. Et donc ils mettent des trucs de monitoring de machin, et moi je me souviens en fait sur le monitoring, tu vois arriver les contractions
qu'elles arrivent,
avant que madame les ressente. Et il y a des moments, je regarde les trucs, je dis, oh, pop, ça là, ça va. Puis tu vois, là, parce que tu vois aussi l'intensité du truc. Et on est dans une salle, et encore une fois, c'était désert. Il y avait vraiment personne. Et au bout d'un moment, Sandrine me dit, mais va aller chercher, je peux plus là. Il faut faire quelque chose, etc., etc. Et donc, je erre dans les couloirs, essayer de trouver quelqu'un. Je finis par trouver une infirmière qui vient. Et là, branle-bas de combat. Parce que le col s'était ouvert de manière, et elle allait accoucher. Et je me souviens de Sandrine qui me regarde avec un regard d'effroi que je dis indescriptible, qui me dit je n'aurai pas de péridurale. En fait, elle avait développé l'obsession de la péridurale et elle a compris que le col était trop ouvert et que il y aurait pas de péridurale. Et elle m'a dit débrouille-toi, mais je veux une péridurale.
Démerde-toi.
Mon job, tu vois. Bon, j'ai échoué lamentablement.
Je vais te piquer moi-même, alors, si c'est vraiment ça que tu veux.
Voilà. Et donc, premier accouchement, à l'ancienne, comme on dit. Et donc, pas de péridurale. Et ouais, j'ai vu dans les yeux de Sandrine ce que c'était que de la douleur et du, enfin, vraiment.
Comment t'as vécu, toi, cette souffrance, cette douleur par procuration?
Moi, j'étais sur cet accouchement-là, j'essayais de faire en sorte que Sandrine reste avec nous, c'est-à-dire qu'elle reste consciente et actrice de ce qui se passait pour essayer de moins subir. Après, j'étais pas là, mais j'ai pas de petits mots doux, mais en fait, je la ramenais parce que parfois, je voyais les yeux qui révulsaient et je la voyais partir et je lui disais reste avec nous, etc., etc. Et c'était, enfin voilà, ça a été un moment assez intense. Et après, bon, t'as la délivrance de la.
Et toi, de voir ta femme souffrir comme ça.
C'est pas un bon moment, mais tu sais qu'il est en train de se passer quelque chose qui est au-delà de nous deux, en fait, qui est pas. Et que finalement c'est la loi naturelle des choses. Mais j'étais déjà en train de penser bon les suivants faudra qu'on fasse différemment parce que là c'est quand même un peu sévère, un peu dur quoi.
Ok. La rencontre avec ta fille.
Alors ça c'est un truc de dingue parce que c'est le tu vois ça sort c'est tout dégoulinant ça. Ça crie, mais en même temps, c'est un peu, et c'est le truc indescriptible, c'est-à-dire que c'est une création d'amour instantané, spontané pour cet être qui respire à peine, que tu connais pas. Alors, tu connais pas. Ça fait 9 mois que je lui parlais, je parlais au ventre, etc., etc. Mais il y a une et je me souviens de m'être dit, mais je suis prêt à mourir dans l'instant pour elle qui est là. Et je sais pas si c'est le miracle de la vie, enfin je sais pas comment appeler ça, mais c'est un truc assez c'est extrêmement fort, indescriptible, tu peux pas laisser, et c'est de l'amour inconditionnel, c'est-à-dire que il peut se passer, tu sais instantanément qu'il peut se passer tout et n'importe quoi derrière. L'amour pour ce petit être qui vient d'arriver ne faiblira jamais et sera toujours extrêmement fort et intense. Et c'est assez incroyable, honnêtement. C'est assez incroyable. Voilà. Et après, t'as le, enfin voilà, tout le rituel du pot à pot, du, etc., etc. Donc là, tu rentres dans des choses qui sont un peu plus. Et puis t'as le monde qui t'entoure, qui reprend un peu le dessus. Enfin, tu sors assez vite de ta bulle de père, etc., etc. Faut que t'ailles à l'état civil, faut que tu ci, faut que tu ça, faut que tu rentres chercher les affaires parce que t'as oublié de prendre un truc. Faut que tu, enfin voilà, tu assez vite tu remets. Mais t'as quand même le moment à l'hôpital, les 4-5 jours qui suivent l'accouchement, t'as quand même des moments de quiétude et d'espèce de plénitude entre Sandrine, Alix et moi qui étaient assez, enfin voilà. Et puis tu deviens une famille en fait. C'est un truc qui est, c'est un truc que tu qui enfin voilà qui arrive avec le premier. Après la famille s'agrandit, mais ouais. Le premier c'est la famille qui se crée. Ouais.
Comment t'as embrassé ce rôle de père, toi, pendant les premiers jours, les premières semaines, t'as des souvenirs? Parce que c'est pas évident, hein?
Non, c'est pas évident. Au début, c'est ce que je te disais, j'ai souvenir d'une forme de responsabilité, mais un peu matérielle, tu vois. Il faut organiser les trucs. Je te parlais de l'état civil. Alors, tu sais qu'il y a la famille qui va débarquer, donc il faut organiser le fait que tout le monde va venir, va vouloir voir le truc, et où est-ce que vont loger les uns les autres. T'es un peu dans le, tu vois, t'es dans l'organisation de tout ça, etc. C'est vraiment quand on s'est retrouvés tous les trois à la maison. Avec la tempête. En plus, moi dans ma famille c'était le premier, la première petite fille de mes parents, donc la première nièce de mes frères et sœurs. Donc il y avait c'était un truc un peu magique. Et oui, moi j'ai préféré quand on s'est retrouvés dans l'appartement tous les trois. Ça a pas duré très longtemps parce que là encore tu te fais rattraper. Moi, je travaillais à l'époque. C'était, t'avais droit, je crois, à 3 jours. Je sais plus,
bah oui.
C'était que dalle. Et donc, je m'organisais. J'essayais de revenir le midi, rentrer le soir. Et quand je rentrais, je me souviens très bien que Sandrine me collait Alix dans les bras. Je vais dormir. Tu t'en occupes le temps que je dorme. Et donc, bah, moi, j'ai passé mes soirées avec ma fille dans les bras.
C'est cool qu'elle t'ait.
Ouais, parce que. Mais en fait, elle avait.
C'était une limite perso, peut-être qu'elle n'en pouvait plus, mais.
Ouais, il y avait de ça, et puis il y avait aussi le. Enfin. Ouais, de dire, bah écoute, toi aussi, passe du temps avec elle, et moi, comme je suis crevé, je vais aller dormir pour prendre des forces pour demain, parce que.
Ok.
Parce que demain, la machine va se remettre en route, et puis des fois, demain, ça. Enfin.
Donc
demain, ça arrivait une heure après, tu vois, parce qu'elle se réveillait, remettait en route, etc., etc.
C'était un daron moderne avant l'heure, alors.
Ouais, je sais pas, moderne, mais.
Modernes,
non, mais moi, je dis. Non, mais tu vois, par rapport à ça, moi, j'ai toujours dit, si je suis dans la maison, personne d'autre que moi ne donnera le bain à mes filles, tu vois.
Enfin, c'était ta mission.
C'est pas ma mission, c'est que c'était un moment. Enfin, moi, j'adorais donner le bain à mes enfants. C'est un truc de. C'est un moment où tu joues, tu ris, tu. etc., etc. C'est un truc très. Très très privilégié, quoi, avec les après quand il y avait les deux c'était encore plus rigolo. Ouais. Puis des fois on faisait ça à 3 à 4, on était c'était très chouette. Et donc oui, moi j'ai pris il y avait une responsabilité, puis envie de comprendre et puis d'accompagner encore une fois ce petit être qui était là, et vraiment quelque chose qui se fait à deux j'ai pas souvenir, alors peut-être que Sandrine me corrigerait, mais d'une forme de répartition des tâches, tu vois. Ouais. Genre, il y en a un qui s'occupe des biberons, l'autre de trucs. Je pense qu'on faisait, aussi un peu en fonction des dispos, des humeurs, de ce qu'on. Moi, j'ai jamais rechigné à préparer à manger, à donner le biberon, à machin, à ceci, à cela, à changer la couche.
Alors, et ça s'est fait de façon assez naturelle, quoi.
Ouais, assez, ouais. Ouais, assez. On a trouvé notre place tous les deux par rapport.
En tout cas, c'est ton souvenir,
Alix. Ouais, c'est le souvenir que j'en ai. Mais tu vois, en même temps que tu me poses la question, j'y réfléchis. Mais non, si Sandrine m'écoute, elle me passera un coup de fil ou elle m'enverra un texto pour corriger. Mais j'ai pas le souvenir que ça s'est fait de manière assez cool, quoi. Ouais.
Qu'est-ce qui fait que donc 6 ans plus tard, c'est ça?
Ouais.
Vous décidez de remettre. D'y retourner, parce qu'il y a un peu un côté, c'est toujours un peu ce truc, tu vois, de ok, bah, vous avez fait 2 enfants en 1 an et demi, quoi. Et après, pendant 6 ans, bah, vous êtes sorti des couches, vous êtes sorti de la petite enfance, ouais, etc. Enfin, il y a un truc qui se joue, quoi. Et hop, let's go.
Ouais, en fait, il y avait tous les deux, on avait cette envie. Enfin, voilà, on se disait, okay, c'est là, il y en a deux, elles sont grandes, voilà, on aimerait bien un troisième parce que ça, enfin voilà, ça fait le truc. Et Sandrine, même si elle exprimait pas totalement, je l'ai compris après, moi, elle avait un vrai désir de mec. J'ai compris ça après. En fait, je l'ai compris le jour de l'échographie où la gynéco nous a annoncé que c'était un garçon. J'ai vu le visage de Sandrine et je me suis dit bon, ok. Elle voulait vraiment vraiment son petit mec. Moi, j'avais pas, tu vois, ce truc-là. Tout le monde me posait la question. Tu veux une fille ou un garçon? Tu veux une fille? Moi, honnêtement, j'étais plutôt sur les filles pour les premières. Et puis après, je m'en moquais un peu. J'avais pas de désir particulier. Si ça avait été une troisième fille, ça aurait été super. C'est un garçon, c'est super. Enfin, moi, j'ai pas de souci par rapport à ça. Et par contre, je me souviens qu'on s'était fixé une date limite, ouais, une deadline. On s'était dit, si au 31/12/2007, Sandrine n'est pas enceinte, on s'était dit, c'est qu'il n'y aura pas de troisième et on n'ira pas au-delà. Alors, on serait peut-être. Arthur est né en août, donc tu vois, on était un peu.
C'était limite.
On a poussé un peu la limite. Et voilà, après, on aurait certainement prolongé le truc, mais c'était ça. Mais c'est vrai qu'il y avait cette question de se dire, attends, là. Comme tu dis, on est sorti des couches, les filles étaient, autonomes.
6-8 ans, ça commence.
Ouais, je le dis aux parents, quand je dis autonome, c'est elles s'habillent toutes seules, elles mangent toutes seules, elles s'occupent entre elles. Enfin, tu vois, tu les posais une après-midi dans leur chambre, elles jouaient toute l'après-midi, t'avais besoin de t'occuper de rien, etc., etc. Donc ouais, on s'est dit, mais est-ce qu'on a vraiment envie de retourner? Et oui, on avait vraiment envie de retourner. Puis tu dois tout racheter, t'as plus les poussettes, tu les as filées aux frères et sœurs, aux potes, aux machins, etc., etc. Il faut te rééquiper complètement, et puis c'est pas la même voiture, et puis c'est pas le même truc, c'est pas machin, etc., etc.
Et comment t'as vécu, toi, cette grossesse et cette arrivée de ce troisième enfant avec, on va dire, 6 ans de plus et sans doute autant de bouteilles de paternité en plus, quoi?
Ben, c'est sûrement la grossesse qui a été la plus compliquée pour Sandrine parce que, comme tu dis, on avait 6 ans de plus. Donc dans nos boulots, c'était des responsabilités, enfin c'était des jobs, voilà, avec plus de responsabilités, plus de périmètres, et physiquement Sandrine a eu beaucoup plus de mal avec cette troisième grossesse. Tu vois, les premières, je sais plus si c'est pour Alix ou Zoé, mais 2 jours avant d'accoucher, elle faisait ses 50 ou 60 longueurs à la piscine sans aucun problème, quoi. Et là, je me souviens qu'Arthur, elle avait dû arrêter vachement tôt. Elle avait des problèmes de sciatique, des problèmes de dos. Elle a été arrêtée souvent. Physiquement, c'était pas agréable. Et Sandrine ne faisait pas partie de ces femmes qui adoraient être enceintes, tu vois. Elle détestait pas le truc, mais enfin bon, elle était pas non plus.
Elle était pas. Pour moi, c'est le plus beau moment de ma vie.
Ouais, quoi. Voilà. C'était. Enfin voilà. Après, il y a des. Moi, j'ai souvenir de moments de coups de pied du ventre qui se déforme, etc., etc., où on se marrait comme des baleines et avec les filles qui regardaient ça complètement, complètement ahuris en se disant mais qu'est-ce qui se passe. Donc ça, c'était. Il y a eu des bons moments, mais la dernière était pas, ouais, c'était pas la plus. Et puis comme je dis, on avait en 2008, donc j'avais 35 ans, Sandrine 36. On avait deux filles de 6 et 7 ans. Les vies sont complètement différentes. C'était pas à l'enfer non plus, hein. Ouais. Sandrine n'est pas restée allongée pendant 6 mois, mais elle a eu des moments d'arrêt où elle était empêchée d'avoir une vie, tu vois, de nager, de faire du sport, de faire des
trucs.
Elle
a l'air d'être plutôt active en plus.
Ouais. Ouais, plutôt, ouais. Plutôt.
C'est pas facile de s'asseoir et de s'allonger.
Ouais, non, elle aimait bien. Puis, alors, tu vois, pour le coup, il y a un truc où là, ça a été stop de chez stop, c'est l'équitation, évidemment. Tu fais pas de.
Oui, c'est sa grande passion, c'est ça.
Ouais, c'est sa grande passion à elle. Et là, c'est clairement pas possible. Donc voilà, il y avait aussi un peu ces sujets-là, mais c'était bien. Et puis les filles étaient, enfin voilà, c'était rigolo de partager ça avec les deux grandes. Ouais.
Ok. Et cet accouchement, alors tu t'en souviens, toi ?
Alors, celui-là, c'est le last. Alors, celui de... Je vais faire rapidement celui de Zoé, parce que celui de Zoé, oui. Sandrine est allée à terme. Donc, on est arrivé le jour du terme à Jeanne de Flandre. Ils ont regardé Sandrine et ils ont dit « Madame, est-ce que vous voulez accoucher aujourd'hui ?» Sandrine a dit oui. Et alors là, ça a été la prise en charge immédiatement, la péridurale qui va bien, le truc. C'était la journée, on avait bien dormi, on était, etc., etc. Donc, ça a été un accouchement très... hyper fluide, etc., etc. Celui d'Arthur, on était chez mes parents dans la Drôme, et l'hôpital était un petit peu plus loin en voiture. Et c'est un matin, Sandrine me réveille, elle me dit, écoute, là c'est bon, on va y aller. On avait eu une fausse alerte de 24 ou 48 heures avant, on avait fait un aller-retour à l'hôpital, et il nous a dit non, mais là vous accoucherez pas aujourd'hui, et donc on y retourne, et je sais pas ce que je fais, je me stresse en me disant non mais aujourd'hui c'est jour de marché, il faut pas passer par le centre de je sais pas quoi, et je commence à faire des détours que je maîtrisais a priori, mais à un moment je me suis pris un stress et je me suis dit non mais là, et Sandrine était vraiment, enfin je à un moment j'ai vraiment cru que...
Qu'elle allait accoucher dans la voiture.
Dans la voiture, alors peut-être sur le parking de l'hôpital, etc., etc., mais à un moment on n'avait pas besoin de se parler, on s'est regardé, mais on s'est dit ok, si ça arrive, va falloir qu'on gère et qu'on soit... fort, parce que pour le coup, il y a des endroits où je voulais pas aller. Il faudra peut-être que je me prenne un peu sur moi pour aider le truc. Donc, bon. Et on est arrivé, ça allait. Et évidemment, pour l'anecdote, c'était un jour où il n'y avait pas de marché.
Bien joué. Fort,
voilà. Le champion. Et donc, on arrive à l'hôpital. Et ouais, je crois qu'une demi-heure ou 40 minutes après, Arthur était là. Donc, pareil, pas de péridurale. Mais là, et je reprends l'expression de Sandrine, il dit non mais le troisième il suit les flèches et il sort tout seul quoi. Donc elle a ça a été un accouchement.
Cette expression incroyable, j'ai jamais entendu. 150 épisodes, j'ai jamais entendu.
Bah écoute, je dédicace cette citation Sandrine et donc elle avait donc pas de péridurale, mais elle avait du gaz hilarant. Je savais pas qu'il faisait encore ça, mais donc régulièrement elle me disait je peux avoir un peu de gaz hilarant. Et ça s'est passé très vite, et il n'était pas du tout ni douloureux, ni angoissé, ni enfin voilà, ça a été fou, super vite.
Okay.
Et ouais, très bien.
Bon,
très très bien.
Vous êtes divorcé ?
Oui.
Depuis donc 2017.
On s'est séparé en 2017, on a divorcé en 2018.
Ok. Comment t'as vécu toi cette séparation ? Et aussi l'impact que ça a pu avoir sur ta vie de père, quoi.
Alors c'est clairement pas ma meilleure période de père parce que j'ai développé une énorme culpabilité vis-à-vis des enfants, un peu vis-à-vis de Sandrine aussi.
C'est toi qui as pris la décision
qui ai décidé de partir assez vite. J'ai rencontré Lucie qui est devenue ma deuxième épouse, donc il y avait aussi cette dimension là à gérer. On pourra en reparler. Et donc j'ai basculé dans un rôle de père qui était qui a confondu les besoins et les désirs, tu vois, enfin je pense que ça te parle, et qui et je me suis dit il faut que je compense, il faut que je sois présent mais différemment, il faut que je etc.
Ça se concrétisait comment?
À la fin, j'étais devenu, et c'est une discussion que j'ai eue avec mes filles, je leur ai dit, quand j'ai dit, j'ai mis un stop, je leur ai dit, écoutez, je ne suis ni votre banquier, ni votre taxi. Parce qu'en gros, au bout d'un moment, les seuls contacts que j'avais avec mes filles, enfin, en tout cas ceux dont je me souviens, c'était, papa, est-ce que tu peux mettre des sous sur ma carte? Et papa, est-ce que tu peux venir me chercher à tel endroit, à telle heure? Ou est-ce que tu peux même m'emmener à tel endroit, à telle heure, etc., etc. Donc, il y avait, j'ai laissé faire ça, je suis le premier responsable de ça, parce qu'une fois, deux fois, trois fois, puis au bout d'un moment, tu te rends compte, voilà. Et puis les filles appelaient peu, et puis moi, j'appelais pas forcément beaucoup non plus. Et voilà. Et je me souviens d'anecdotes d'Alix qui voulait, je crois que c'était une voiture, elle voulait une voiture, donc elle demande à sa mère, elle dit, écoute, non, t'auras pas de voiture. Et elle a dit à sa mère, je vais demander à papa, de toute façon, il me refuse rien, donc je demanderai à papa et j'aurai ma voiture, quoi. Bon, elle a pas eu sa voiture.
Mais elle avait 18 ans, quoi. C'était...
Ouais, elle avait 18, 19, ouais, je sais
c'était
plus.
C'était le moment disait, de recadrer,
c'était,
quoi.
C'était le moment de recadrer. Et puis j'ai... Ouais, je te dis, j'étais pas. Je voulais faire tout bien. Et je pense que quand t'es père et que tu veux faire tout bien et que tu viens de te séparer et que t'es pas là tout le temps, parce que moi, la moitié du temps, j'étais à Paris, donc j'étais même pas sur place, même s'ils étaient chez leur maman. Bah, tu fais beaucoup de bêtises, ouais. Tu fais beaucoup d'erreurs. D'abord, il y a des moments où j'aurais dû être là et j'étais pas là. Alors forcément, ce sont des moments que tu ne prévois pas. Enfin, c'est le principe. Et Et parfois, il m'est arrivé de rentrer en urgence quand il fallait rentrer en urgence. Et puis, il m'est arrivé aussi d'évaluer un peu différemment la situation. Peut-être parce que ça m'arrangeait aussi de rester à Paris et de rentrer 24 ou 48 heures après que ce qui était sûrement attendu. Et ça a créé beaucoup d'incompréhension et de difficultés avec mes filles. Moi, j'ai essayé de leur expliquer que je les aimais toujours et que c'était peut-être un amour qui s'exprimait différemment. Sincèrement, tu vois, et même quand j'en parle là, je vois, je fronce un peu les sourcils. C'est pas une période où je suis pas très fier de moi sur toute cette période-là. J'ai pas été au top.
Beaucoup de culpabilité, tu disais?
Ouais, parce que c'est moi qui suis parti, parce que au moment de la séparation, j'ai aussi un peu planté Sandrine. En allant me ressourcer et voilà, j'avais besoin de partir, etc., etc. Mais là, c'est elle qui gérait tout, les trois enfants, la maison, sa stupeur de la séparation, etc., etc. Donc c'est derrière, tu te dis bon, il va falloir que je rattrape tout ça si tu veux, mais ça se rattrape pas, en fait. Il faut juste accepter que ça s'est passé, l'assumer, discuter s'il y a des abcès à crever avec les uns et les autres, mais se dire je vais rattraper quelque chose. Non, tu rajoutes des problèmes pour plus tard parce que tu sors un peu du cadre paternel et tu dis tiens, je vais essayer de faire un peu pote avec mes filles. En plus, tu vois, c'était là, j'étais grande et machin. Ça marche pas. Enfin, il faut bien s'entendre avec ses enfants. Hein,
c'est
pas ce que je dis.
Bien,
j'étais père, j'étais pas pote.
Il faut donc, rester une figure d'autorité malgré tout, quoi.
Exactement.
Ok. Et... Comment t'as récupéré le coup, entre guillemets? Comment t'as changé? Comment t'as... Qu'est-ce qui t'a... C'est... Ça a été quoi ton chemin par rapport à ça?
Quand j'ai dit aux filles, je leur ai dit si vous voulez m'appeler, c'est pour prendre de mes nouvelles, c'est pas pour me demander un service. Alors, évidemment que vous pouvez m'appeler pour me demander quelque chose de temps en temps, mais pas que. C'est pas que ça. Et puis j'ai moi aussi dans ma façon d'être et de me comporter vis-à-vis d'elles changé un certain nombre de choses. Et puis elles étaient grandes, elles ont changé. Elle aussi, ça s'est fait assez naturellement, mais ça a pris du temps et je n'ai complètement refermé cette parenthèse là vis-à-vis de mes enfants mais limite l'été dernier, en fait.
Ah ouais.
Ouais, parce que sur des discussions que j'ai pu avoir notamment avec Zoé. De décisions que j'avais prises, de choix dans ma vie, et notamment par rapport à mon deuxième mariage. On s'en est expliqué et compris l'un l'autre, parce que c'est pas le tout d'expliquer les choses, mais si le message n'est pas compris, accepté, et ça marche dans les deux sens. Ça a été vraiment que cet été que j'ai refermé cette parenthèse là. Ouais.
En même temps, à plus de 20 ans, c'est cool aussi de finir par avoir des discussions d'adulte à adulte avec tes parents, quoi.
Ouais. Non, et c'était chouette. On avait passé, je me souviens, un week-end avec Zoé. Elle était venue à Paris. On a passé du temps vraiment tous les deux à discuter de plein de choses. Et du coup, c'est marrant parce que on a parlé de paternité et de maternité avec Zoé. Enfin, de plein d'autres choses. Et c'est à ce moment-là que j'ai senti, je dis, ok, on est revenu dans une relation père-fille, normalisée, apaisée, Et moi, ça m'a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Je lui ai dit à Zoé. Elle m'a dit, mais moi aussi, papa, je suis très contente, etc. Mmh. etc. Donc, c'est. Ouais, non, c'était.
Elles t'en ont voulu un moment ? Je sais pas si le petit, de ce fait-là, lui, s'en rendait compte aussi. Parce que
ouais, je pense qu'ils m'en ont voulu. Après, j'ai fait des trucs qui étaient. Si tu veux, mon deuxième mariage, mes enfants n'étaient pas là. N'étaient pas invités. Alors, présenté comme ça, je vois ta tête.
Ah oui.
C'est.
Enfin, c'est fait. J'ai fait. Ouais, wow. Ok.
Et si tu veux. Pour moi, c'était pas un sujet. Je vais expliquer pourquoi, parce que avec Lucie, on voulait un mariage en comité extrêmement restreint. Et à un moment, on a fait le décompte des invitations, des trucs, et on s'est dit, mais en fait, soit c'est nous, nos témoins et leurs conjoints, ça fait 10 personnes, soit c'est 50 personnes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Je ne dis pas que le raisonnement est juste, hein, mais je t'explique,
wow.
Je vous explique comment je suis arrivé à ce raisonnement-là, etc. etc. Okay. Parce que tu dis, je ne peux pas inviter ma sœur et pas mes deux frères. Et donc, si j'invite ma sœur, j'invite mes frères. Si j'invite machin, si ceci, si cela, enfin, etc.
Mais tes enfants, c'est avec 3 personnes de plus.
Alors, je sais le...
Pardon, hein, je me permets de faire l'avocat du diable.
Tu peux,
sais qu'il y a plein de gens qui vont bugger.
Et en fait, plein de gens sont venus me voir. Et plein de gens m'ont dit, Sandrine la première, et Sandrine m'a dit, je me souviens de ces mots, elle m'a dit, Laurent, s'ils ne sont pas à ton mariage, ça veut dire que tu les exclus de ta nouvelle vie. Je dis, n'importe quoi, ce sont mes enfants, enfin, et puis je referai une deuxième truc à Noël en famille avec tout le monde, il y aura mes parents, il y aura mes frères et sœurs, les enfants seront là, on fera le truc tous ensemble, c'est juste que là c'est compliqué à Paris, machin, etc. etc. Une copine qui m'a appelé, qui m'a dit, non, là, j'ai pas pour habitude de dire aux gens ce qu'ils doivent faire ou pas faire, mais là je pense que tu fais une connerie, etc. Et donc plusieurs
ouais.
J'ai pas vu ça.
Ouais.
Alors, est-ce que je l'ai pas vu? Est-ce que je voulais pas le voir? Est-ce que je voulais m'entêter dans mon idée que non, c'est comme ça, j'ai raison, j'ai machin, etc., etc.
Pour ta nouvelle femme, c'était compliqué que tu sois père déjà?
Oui. Oui.
On y est.
Oui, oui. C'était.
T'avais du mal à accepter que t'aies eu une vie avant?
Alors, je veux pas parler pour elle, mais oui, elle avait. Elle m'a souvent exprimé de manière extrêmement claire que je puisse aimer d'autres êtres, et ce sont ses mots, plus qu'elle, ça posait un problème.
Ouais, elle n'avait pas d'enfant.
Elle n'avait pas d'enfant, elle voilà. N'en voulait pas, on n'en a pas eu. Et voilà. Et donc, si tu veux, ce truc-là est fondateur de tout ce qui s'est passé ensuite, si tu veux. Et donc, oui. Bah, les dîners, les repas en famille recomposée avec Lucie et les enfants, les filles, etc. etc. On a eu de très bons moments, c'est pas le souci. Et j'insiste sur un point parce qu'il est important. J'assume l'entière responsabilité du truc. Tu ne m'entendras jamais dire c'est Lucie qui voulait pas de mes oui. enfants en mariage. C'est absolument pas le cas, pas du tout. Et avec Lucie, on a essayé de faire tout ce qu'il était possible pour que ça se passe bien, en famille recomposée, quand on passait du temps ensemble, etc., etc.
En tout cas, disons que je m'imagine, moi, me remarier un jour avec quelqu'un qui a des enfants. C'est impossible pour moi que cette personne n'invite pas ses enfants
ouais.
à son mariage, tu vois. Et donc, elle t'a pas renvoyé ce miroir-là.
Non.
Toi. Et donc, forcément, toi, j'imagine que, comme c'était sans doute un sujet de tension... Tu préfères te dire, on va peut-être évacuer.
Sûrement, je me suis, enfin ouais. voilà. Et après,
tu l'as peut-être pas conscientisé comme ça à l'époque.
Non, mais... je l'ai pas fait. Et en plus, je me souviens, j'étais persuadé d'avoir raison et de faire faire un truc qui était bien, enfin qui était normal, si tu veux. Et ouais, je me suis pris un bon boomerang dans la tronche. Ouais.
Et je comprends que pour Lucie, ce soit compliqué aussi de se dire. Ok, en fait, il n'est pas le premier. Il n'est pas. Je ne suis pas la première, en tout cas.
Ouais, et puis c'est. Et puis, je me souviens de discussions. Puis après, c'est des discussions qui devenaient un peu lunaires. Et quand elle me disait, mais si tu dois choisir entre tes enfants et moi, tu choisiras tes enfants. Je dis, mais c'est absurde comme question. Enfin, je veux dire, c'est pas bien de poser une question comme ça. Je dis, évidemment que je choisirai mes enfants. Mais
cette question est absurde à partir du moment où. T'as toi-même eu des enfants et que t'as vécu la parentalité.
C'est un truc de. Enfin voilà.
Si tu l'as pas vécu, c'est pour moi, je la trouve normale, en fait. C'est-à-dire que si t'as pas vécu, comme tu dis au départ, comme tu disais quand t'as découvert Alix, cette vague d'amour incroyable qui te prend dans la gueule et qui est indescriptible, je peux comprendre que ce soit compliqué à comprendre, quoi.
Et en fait, c'est la différence entre l'amour inconditionnel et l'amour conditionnel. Non, je mets pas de guillemets d'ailleurs, c'est ça. Et surtout ce que j'ai toujours essayé d'expliquer à Lucie, et manifestement je n'ai pas réussi, c'est que ça n'est pas le même amour. Et c'est pas des amours qu'il faut opposer, essayer de prioriser, hiérarchiser, etc., etc. C'est la pire des choses à faire. Et d'ailleurs, entre autres choses, c'est ce qui fait que notre histoire est arrivée au bout du chemin avec Lucie, parce qu'il y avait, entre autres, il n'y a pas que ça.
Et, oui, j'imagine, mais en tout cas, ça fait partie.
Il y a plein d'autres choses, mais c'était un point de désaccord et irréconciliable assez important.
Merci de partager ça, parce que je crois vraiment que c'est un vrai dos pour tous les parents qui se sont séparés et qui veulent refaire leur vie. C'est sûr que de se retrouver avec quelqu'un qui n'a jamais eu d'enfant alors que toi t'en as, c'est un peu une pierre angulaire de la relation, et forcément les enfants s'invitent dans la relation, quoi.
Ouais. Ah ben oui, tu peux pas aller, c'est impossible. Et j'avais
en tout cas, t'avais décidé de les enlever à ce moment-là pour ton mariage.
Ouais, voilà. Et je me souviens d'une conversation, et Dieu sait que je la regrette, et je m'en suis. C'est Sandrine qui m'appelait et qui m'a dit: écoute Laurent, je sais que t'es à Paris, je sais que t'as ta vie à Paris, je sais que tu bosses à Paris. Elle dit: mais là j'ai besoin du père de mes enfants, j'ai besoin que tu sois là pour m'aider à gérer, etc., etc. Et je me souviens de penser et d'être convaincu et de lui dire: écoute, c'est ta semaine, en gros tu te débrouilles si tu veux. Ce qui, et là encore, petit conseil du haut de mes 50 ans, l'autorité parentale, la paternité, la maternité, c'est 100% du temps. Que vous soyez à 3 mètres ou à 30 000 km de l'endroit où ça se passe, c'est pas quelque chose que j'ai cru un moment, je veux dire, bah oui, quand je suis à Paris, j'ai ma vie à Paris, je suis plus père, et quand je suis avec mes enfants, je suis père. C'est d'une bêtise sans nom que de penser ça. Je l'ai fait, donc j'assume pleinement. Et oui, j'ai pas été cool. Enfin, tu vois, quand on parlait de qu'est-ce qui s'est passé, etc., etc. Et tout ça, il a fallu du temps pour le
reconstruire.
Ouais, pour le reconstruire, et puis d'abord il m'a fallu du temps, moi, pour me rendre compte à quel point j'étais à côté de la plaque, et après, une fois que tu t'en es rendu compte, et ben oui, il faut trouver les moyens de raccrocher les morceaux, y compris avec Sandrine, qui pour le coup a toujours été extrêmement clean et douce, j'ai envie de dire, à mon égard, et aujourd'hui ça se passe, aujourd'hui ça se passe très très bien, tout va bien, et il n'y a pas de sujet. Ouais.
Ok. C'est peut-être le moment de parler de ton père.
Ah,
parce que bon,
mon papa.
Qu'est-ce qui, toi, j'étais en train de me demander, qu'est-ce qui fait que t'as géré ta paternité comme ça une fois que t'as décidé de quitter. Je ne sais pas si c'est un rapport. Hein, on n'en a pas parlé, toi et moi, mais.
Alors, je vais. Mes parents. Alors, je ne sais pas si je commence par la fin ou pas, mais en tout cas, mon père m'a toujours inculqué et renvoyé l'image du père de famille en responsabilité vis-à-vis donc de sa femme, de ses enfants, et un côté un petit peu, pas beaucoup, mais un petit peu sacrificiel sur les enfants premiers. Et derrière tout ça, le côté sacré au sens spirituel de la première femme de ta vie, la mère de tes enfants, ce qui se passe avant, après le mariage, les machins, etc., etc. Donc ça, j'ai grandi là-dedans. Mais j'ai grandi là-dedans. Moi, je l'ai perçu et intégré d'une certaine manière. On est 4 frères et sœurs. Nous avons tous reçu les mêmes messages. On les a pas du tout décodés de la même manière. On en a bien parlé après, etc., etc. Donc, encore une fois, je dis toujours, je suis seul responsable de tout ce que j'ai fait, et je ne jette aucune pierre à mon père de m'avoir mis sur une voie qui était, voilà, ma sœur en est allée sur une autre, mes deux frères sur deux autres voies différentes, donc enfin voilà, c'était ma voie et c'est pas.
Et donc à ton âge, c'est bien d'avoir fait la paix avec.
Ouais, voilà, là-dessus, je suis assez, enfin, je sais pas. Et donc voilà, et donc j'ai grandi avec cette image-là de responsabilité, tu vois, un peu lourde. Et moi, j'ai développé ça de me dire non, mais il faut s'occuper. Et c'est pour ça que le divorce, enfin mon divorce, le premier d'avec Sandrine, c'était compliqué, c'était un truc que je, donc la culpabilité qui en est suivie, elle vient aussi de ces de tous ces trucs là.
Tu veux dire l'éducation religieuse en plus,
ouais,
j'imagine,
voilà.
Ça oui. Se fait pas de divorcer.
Ouais, alors ça, oui non, ça se fait pas, ça se fait pas. Et puis nous, si tu veux, le schéma familial, on est donc c'est quatre enfants. On a tous fait des belles études, on a tous fait des beaux mariages, on a tous eu trois enfants, tu vois, pas deux, pas quatre, trois, tous les quatre là, on était trois enfants, des beaux appartements, des belles voitures, des belles carrières, des beaux voyages, des belles photos, des beaux moments, des machins, enfin voilà, tout parfait.
Tout bien parfait.
Ouais, nickel, tout parfait. Et puis en cinq ans, ouais c'est ça, en cinq ou six ans. Mon petit frère a divorcé, j'ai divorcé, ma sœur a divorcé, et un matin, mon père m'a appelé, et je le raconte comme ça parce que je l'ai vécu comme ça, c'était pas un matin, c'était un soir de janvier, mon père m'appelle, me dit voilà Laurent, écoute, et il m'annonce qu'à 72 ans, il quitte ma mère de 72 ans pour partir vivre sa meilleure vie avec la voisine qui est plus jeune que moi. Et là... Tu te prends, c'est si tu veux, c'est tu te prends toutes les forêts suédoises qui font les armoires Ikea, là, tu te le prends mais pleine tronche et tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc, what the, etc etc. Et
wow.
Et donc c'est ce qui s'est passé.
La crise de la quarantaine. T'as un peu l'impression que c'était. C'est ses enfants qui lui ont montré que c'était possible, qui lui ont peut-être ouvert cette voie-là, quoi.
Je pense. Alors, en tout cas, il l'a exprimé lui. Alors, assez vite, je lui ai dit tu nous fais pas porter la responsabilité
non plus quand même, aussi,
tu vois. Bah, enfin, je veux bien servir d'exemple à mon père, mais enfin, c'est les décisions, tu les as prises tout seul, tu vois. C'est pas tu m'as pas
incroyable.
Et voilà. Et je sais plus ce que je voulais dire.
On parlait de ton père.
Ouais, donc il s'en va. Et donc je pense aussi qu'il y avait cette idée-là, forcément, ça avait un peu débloqué des trucs. Papa, il sortait d'un Covid, où à un moment, c'était à l'époque où, enfin, tu vois, l'ambulance est venue le chercher. Moi, j'ai eu mon père au téléphone, et quand j'ai raccroché, je me suis dit, bon, bah.
C'est peut-être la dernière fois que j'ai parlé.
Peut-être la dernière fois que j'ai parlé à mon père. Donc, donc lui, il l'a vécu aussi. Et donc.
Pulsion de vie, peut-être, quelque part.
Ouais, voilà. Mais moi, si tu veux, quand il m'a appelé, il m'a appelé pour me dire, écoute, Laurent, en gros, l'autre discours, c'était, j'ai 72 ans, il me reste 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, j'ai une furieuse envie de les vivre différemment, donc, sans sous-entendu, sans ta mère, sans la maison, sans le truc, etc., etc. Et donc, je pars et je vais aller vivre cette vie-là. Et ce discours-là, je l'ai acheté. J'ai pas de souci avec ça. J'avais fait la même chose 3 ou 4 ans avant. J'ai dit, il y a pas d'âge pour décider de changer sa vie, ou en tout cas, je me voyais pas lui dire, écoute papa, t'es gentil, mais tu vas les 20 prochaines années là, tu vas te mettre dans un canapé, tu vas pas bouger, et puis tu vas surtout pas nous mettre le bazar dans tout le truc, etc., etc. Donc c'est pas. C'est juste qu'après, pendant un moment, il est un peu sorti de ce truc là, etc., etc. Et aujourd'hui, ça fait 3 ans maintenant. J'ai dîné avec lui le week-end dernier et sa nouvelle copine, qui cette fois-ci est plus âgée que lui. voilà.
Il est revenu dans
Laurent. Et j'ai passé un excellent moment avec mon père. Et j'ai vu mon père dans ce qu'il m'avait vendu la première fois qu'il m'en avait parlé, c'est-à-dire une nouvelle vie différente. c'est pas mieux, c'est pas moins bien, il y a pas de jugement, mais j'ai vu mon père heureux d'être là, heureux de me présenter sa copine. Moi j'étais avec mon fils et j'ai passé un super moment avec lui. Et donc il vit maintenant à Cannes, il vit sa vie, il est content, et je préfère ça que l'année de la séparation ou du divorce où je suis pas passé loin de me fâcher définitivement avec mon père. Avec mon frère, il se parle quasiment plus du tout.
Ah ouais.
Parce que ça a été une année très compliquée pour nous, pour maman, pour mon père, pour etc. etc. Et il y a des choses qui ont été dites et qui laissent malheureusement des traces, et il faut un peu de temps pour effacer les traces. Alors moi j'ai réussi à garder le contact et à garder ce lien là avec mon père, j'en suis plutôt content. Et voilà. Et donc, pour revenir à ta question originelle, c'est qu'une fois que papa a dit qu'il partait, etc., etc., ben là, ta maman qui a un peu ouvert les placards, et là, tu te rends compte que entre la scène du couple que représentaient mes parents et des parents que représentaient mes parents et la coulisse de ce qui se passait derrière, bon bah c'était pas tout à fait la même chose. Mais
et à 45 balais, t'avais encore des illusions
sur
justement l'idée un peu parfaite du couple de tes parents.
En fait c'était pas des illusions, c'est des choses que tu laisses sous le tapis, si tu veux.
Okay.
Moi quand papa m'a annoncé ça, j'ai les souvenirs de quand j'avais 12 ans, 15 ans, 18 ans, ou des scènes qui m'avait marqué, que j'avais pas forcément compris ou refusé de comprendre. Ouais, tu dis bon, ok, c'est bon, j'ai compris.
D'un coup, d'un seul, le puzzle se met en route.
J'ai compris. Mon père est un homme normal. Enfin voilà, c'est pas. Ouais. Et voilà. Et après, mais là encore, ça sert à rien. Je lui ai dit, c'est une conversation que j'ai avec lui, mais pourquoi t'avais cette obsession de nous mettre dans le schéma familial idéal, etc., etc. Alors que manifestement, toi-même, t'étais pas complètement dans le truc. Bon, il y a toujours eu un peu de mal à répondre à ça, et je peux comprendre. Et voilà. Et puis on va pas refaire. Et puis surtout, j'ai eu une enfance très heureuse. Enfin,
oui.
J'ai manqué de rien. Mon père a toujours été présent quand j'avais besoin de lui. Ma mère aussi. Mais machin. Enfin, j'ai pas de reproche particulier à lui faire.
Non, mais je trouve ça intéressant de réfléchir sur à ton âge, tu vois, sur l'éducation que t'as reçue. Et peut-être effectivement, il y a un côté très on va vous vendre entre guillemets un modèle, quoi.
Ouais.
Qui en fait en vrai était juste un château de paille, quoi, tu vois.
Ouais, c'est ça. Et modèle auquel j'ai adhéré, dans lequel j'ai embarqué Sandrine sur mon premier mariage, parce qu'elle n'était pas forcément pour le mariage, machin, mais elle voyait bien que c'était un truc important pour moi, etc.
Ouais.
Mais encore une, enfin, tu vois, j'ai pas pris de recul par rapport, ce sont pas des questions que je me suis posées, en fait. Je me suis dit, il faut, tu vois, maintenant, là, je suis diplômé, maintenant, je me suis fiancé, j'ai fait des fiançailles, hein, des trucs, des belles fiançailles, etc., etc. Puis après, du coup, on se marie, puis après, on achète une voiture. Ouais. Puis, c'était il faut.
Il y avait pas de podcast à l'époque.
Il y avait pas
où on entendait les vieux darons,
mais
raconter
voilà, il y avait pas des choses comme
d'expérience,
ça.
Donc,
il y a plein de choses comme ça.
Aujourd'hui, les jeunes, ils ont tout à dispo, quoi, tu vois, s'ils veulent aller questionner un peu, il y a.
Et donc mon père ou mon papa, il est, enfin voilà, c'est une figure importante, et c'est aussi une figure, ça fait un an et demi maintenant que avec laquelle j'apprends à prendre du recul. Il y a rien de mal ou de mauvais chez mon père, hein, pas du tout, mais il y a des choses par mimétisme ou par éducation ou par etc., etc., que j'avais faite mienne en me disant moi aussi je suis comme ça, et en fait non, c'est pas encore une fois, c'est pas que je suis mieux ou moins bien, c'est juste que je ne suis pas mon père ni ma mère sur d'autres aspects, et qu'il faut que je sache qui je suis vraiment et comment je dois m'épanouir dans les différents sujets, y compris le sujet de la paternité.
50 balais, c'est pas mal. Hein.
50 balais, c'est
le moment d'y aller. Hein.
Ouais, c'est pas mal. Ouais. Il y en a qui font ça plus tôt, il y en a qui font ça plus tard, il y en a qui font ça jamais.
Oui.
Il y en a qui font. Mais voilà.
Non,
mais
c'est le bon âge.
Ouais. Enfin, moi, c'est des questions. Ouais, ça fait 18 mois, 2 ans que je fais ce travail-là de questionnement et de reconnexion à moi-même ou de redécouverte de moi-même, je sais pas comment le détailler, et ça fait beaucoup de bien. Ouais. Ça fait beaucoup de bien.
Tu m'étonnes, mais surtout en plus dans la transmission de ce que tu vas entre guillemets vendre à tes enfants, toi, comme modèle, quoi. Tu vois, c'est intéressant de réfléchir à un truc un peu plus conscient et de la façon dont tu veux vivre, toi, ta deuxième partie de vie, quoi.
Ouais, ça, c'est des choses, pour le coup, certaines, j'avais... Tu vois, moi, mon père m'a toujours dit, Laurent, tu n'auras qu'une seule femme dans ta vie. Et moi j'ai grandi avec l'idée de... On fait pas l'amour avant le mariage, tu vois. Ça paraît... Et je suis né en 73, hein, je suis pas né...
donc en 1850.
Et c'est un discours que m'a tenu mon père, etc. etc. Et
donc t'étais vierge jusqu'au mariage
Non.
Déjà, tu avais... tu avais péché.
Voilà, tu vois, donc quand je dis que tu peux prendre une voie différente de celle que t'indique ton père, c'est possible, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais si tu veux, dans ce que... Et c'est des discussions que j'ai eues avec mes filles et que j'ai aussi avec Arthur, avec les fils, c'était avec leur maman à l'époque... Moi, dans les discussions que j'ai eues et dans ce que j'ai dit à mes filles quand elles étaient, quand elles approchaient dans l'adolescence, nous leur avons dit avec leur mère, il y a quelque chose qui est fondamental et qui est que vous devez intégrer à tout prix, c'est que votre corps vous appartient. Mmh. Vous en faites ce que vous voulez. Ça, ça nous regarde pas. Mais c'est vous qui décidez absolument de tout ce qui se passe. Si vous avez envie, pas de souci. C'est votre vie à vous, c'est votre corps. Mais personne ne peut vous imposer de faire quelque chose que vous n'avez pas envie de faire.
Excellent conseil.
Ça, c'est des discours que mais jamais de la vie j'aurais pu entendre des trucs pareils, quoi.
Oui.
Moi je me souviens de maman qui m'expliquait ce que c'était que les règles, les trucs, les machins. Je la regardais avec des yeux comme ça en disant mais pour qui elle me prend, donc tu on peut aussi faire un peu de tri entre ce qui est bien ou pas bien, et puis
bien sûr,
on grandit aussi un peu quand même.
Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je t'ai pas amené, sur la paternité dont on aimait parler?
Quand on s'est rencontrés, je te regardais prendre des notes et je te demandais ce que tu faisais. Donc tu m'as expliqué en fait un de tes sujets, c'est de se dire mais qu'est-ce que j'aurais aimé savoir ou connaître et que j'ai vraiment découvert dans la paternité et que j'avais pas vu venir, quoi, du tout. Et c'est aussi quelque chose qui a été mis en évidence dans ma relation avec Lucie. C'est ce que j'appelle, alors le terme est fort, mais je vais le développer, c'est ce que j'appelle l'ingratitude. C'est-à-dire que Lucie, encore une fois, je l'entendais me dire, mais tu sais, hein, tout ce que tu fais pour tes enfants, ils te le rendront jamais. Sous-entendu, le fais pas, puisque tu n'auras pas de retour. Et en fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais maintenant, c'est vrai que oui, on va pas se mentir, les enfants, c'est une grosse proportion de contraintes, d'emmerdes, de trucs, de ceci, de cela, d'engueulades, il va falloir que j'aille lui expliquer ça, j'ai autre chose à faire ce soir, je suis fatigué, j'ai machin, mais là, il a déconné, ou elle a déconné, il faut vraiment que je prenne les 5 minutes, le quart d'heure, la demi-heure pour avoir cette discussion avec lui, et nana. C'est un travail sans fin, sans rien, etc., etc. Et je pense que ça reviendra plus tard sous d'autres formes, mais on va dire jusqu'à ce qu'il soit, je pense, totalement autonome et indépendant, le retour, il est parfois un peu léger au regard. C'est-à-dire que si pour faire un parallèle, je sais que ça va te faire sourire, c'est-à-dire que si ça se passait comme ça dans mon job, il y a longtemps que j'aurais démissionné, tu vois, en disant j'aimerais avoir un petit peu plus de reconnaissance et de retour. Et en fait, mais tu le fais pas pour avoir la reconnaissance et du retour. Faut pas raisonner comme ça. Mais il faut accepter, parce que je vois aussi des jeunes parents qui peuvent se décourager un peu vite. On est dans un monde où tout va très vite, je trouve que parfois c'est un peu la fabrique aux enfants capricieux et devenir père, devenir mère, c'est job for life, et faut rien attendre en retour de particulier. Alors
tu parlais d'amour inconditionnel. Pour moi, la condition sine qua non de l'amour inconditionnel, c'est que tu donnes de l'amour et t'attends rien en retour.
Exactement.
Voilà. Et c'est dur.
Ouais, c'est dur.
C'est dur à Mais c'est dur de s'y ouvrir, je trouve.
Ouais, mais et si tu veux, alors une fois que j'ai expliqué ça et ce côté un peu difficile, je vais aussi dire ce que je disais beaucoup. Tu vois, moi j'ai un truc qui a changé quand Alix est né, ensuite Zoé et Arthur, c'est que tu sais, il y a des gens qui venaient me voir au bureau, ils me disaient Laurent, il s'est passé un truc, c'est super grave, c'est un client machin. Je dis non, c'est pas grave. Non, je t'assure que c'est pas grave. Je dis c'est important, peut-être. C'est certainement compliqué à gérer, mais je t'assure que c'est pas grave au sens. Et donc j'expliquais et j'aurais dit, tu sais pourquoi c'est pas grave, tu sais. Et en fait, ce que j'ai compris moi, c'est que quelle que soit ma journée, quel que soit le truc, etc., etc., ce qui m'attendait à la maison, c'était mes deux filles, grand sourire, ah oh, papa, et un gros câlin, etc., etc. Et ça durait quelques secondes tous les jours. Mais ça vaut, ouais. Ça vaut tous les sacrifices et tout ce que tu, le temps et tout ce que tu peux te donner, sans aucune hésitation. Donc c'est, donc voilà. Mais parfois, tu dis, putain.
Ouais, j'ai développé une théorie, moi, quand elles étaient plus petites, c'était la théorie des 90-10. C'est 90% de gros emmerdes, en fait, et de trucs vraiment compliqués à gérer. Et en fait, les 10% de moments incroyables qui peuvent que j'avais expliqué dans, j'avais fait un post de blog à l'époque, par juste une remarque de ma fille qui était incroyable, ça enlève en fait les 90%. Oui. Et en fait, heureusement, parce que sinon, en fait, on ferait pas d'enfants. Je crois vraiment que le cerveau humain est fait pour. Je suis pas du tout neurologue et je sais pas du tout comment ça fonctionne, tu vois. Mais pour moi, il y a un vrai truc de, ça efface quoi, tu vois, et ça te permet de pouvoir continuer à te dire. Bah, c'est trop bien d'être parent et de pas avoir envie de tuer ton enfant parce que t'accumules quoi, tu vois.
C'est exactement ça.
Voilà.
C'est exactement ça.
Écoute, hein,
un sourire est à la batterie qui est rechargée pour 24, 48, 72 heures, 3 semaines, 1 an, 10 ans. C'est...
Et tu vois, pour parler d'amour inconditionnel, moi je crois vraiment que ça découle aussi de son propre amour de soi, auquel je me suis ouvert moi assez tardivement, genre depuis un an et demi, 2 ans, à tout casser. Et mais en fait avant ça je l'avais pas, parce qu'en fait j'attendais de mes filles un truc en échange en permanence, ou alors je les jugeais parce que elles faisaient pas telle ou telle activité, ou qu'elles prenaient pas telle ou telle décision. Même si je les jugeais pas, je leur disais pas bah t'es nul, non, en fait en moi j'ai jugé, je me disais bon ok, elles sont pas à la hauteur quoi, voilà. Aujourd'hui j'en ai plus rien à foutre et je suis vraiment dans un truc d'ouverture totale de tu vas faire ce que tu veux, ce sera trop bien. Mais je crois que c'est dur en fait en tant que parent, quand toi-même t'as pas reçu ce propre amour-là inconditionnel de la part de tes propres parents, de comprendre ce que c'est, de t'ouvrir à ce que c'est. Ça a été un vrai taf pour moi, très compliqué. Mmh. Et je vois très bien le changement qu'il y a eu aujourd'hui dans mon attitude par rapport aux filles, où je disais avec Kim, avec qui on a des discussions parfois un peu compliquées, je disais mais tu sais que t'es la seule personne à pouvoir me parler comme ça dans ma vie. Personne d'autre ne peut me dire ce que t'es en train de me dire, sinon ça dégage en fait. Toi t'es là et en fait bah je t'aime en fait, donc continue à pas mal me parler et je m'en fous. Moi je serai là pour toi quand tu seras calmé, quand tu seras moins en colère et tout. I'll be there, tu vois.
Ouais.
Mais ça je crois qu'il y a 5 ans j'aurais été incapable. Même 3 ans.
Ouais, c'est moi aussi, j'ai un peu de bascule comme toi, et où tu dis, mais finalement, parce que, en fait, quand tu fais le travail où tu regardes ton père, et tu dis, enfin, quand je regarde mon père, et je me dis, bon, bah, ça c'est lui, c'est pas moi, forcément, en miroir, tu te dis, mais qu'est-ce que j'envoie, moi, à mes enfants, où je voudrais qu'ils soient ça, et en fait, c'est pas eux, et ils vont se dire, bah, je vais, tiens, faire plaisir à papa, je vais faire ça, et en fait, c'est pas. Donc, fais gaffe, quoi. Fais gaffe à ce que tu leur envoies et à ce qu'ils soient eux-mêmes et ce qu'ils soient heureux en étant eux-mêmes.
Merci, Laurent.
Merci beaucoup.
C'était génial. Vraiment, j'ai adoré.
Moi aussi.
J'en doutais pas une seule seconde. Hein, mais alors là, merci beaucoup, c'était trop bien.
Cool. Merci beaucoup.
Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.